Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Coucou. Avril 2003, France. Toute une famille est portée disparue. Un couple et leurs trois enfants se sont évaporés dans la nature. Leur chalet de 300 mètres carrés est vide. Rapidement, l'enquête tourne à l'horreur. Des traces de sang sont révélées à l'intérieur du chalet. Il y en a partout, assez pour dire que la famille a été massacrée. Les enquêteurs français découvrent que Xavier, le père, avait des soucis. Il avait arnaqué pas mal de monde dernièrement. Et puis, il y a ce voisin qui observe les enquêteurs et qui aime passer à la télé. Cette femme de ménage qui déballe sa haine de la famille face caméra et qui choque l'opinion publique. L'affaire Flactif, en ce mois d'avril 2003 et pendant plusieurs longs mois encore, s'apprête à horrifier la France puisque l'histoire qui va suivre va révéler un scénario absolument terrifiant, fait de coups de rouleau à pâtisserie, de hurlements et de brasiers au beau milieu des montagnes françaises. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Chalet de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui en France et plus précisément au Grand Bornand, commune située dans la Haute-Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment connue pour sa station de ski, ses aventures en montagne et ses chalets à louer. Tout le site de la commune est d'ailleurs uniquement dédié à la montagne. Et en parlant de chalet, quelle transition exceptionnelle, ça tombe bien, puisque la famille Flactif qui est au cœur de notre affaire, elle en a un. Et c'est là-bas que se rend Mario, 14 ans, le samedi 12 avril 2003. On est pendant les vacances de Pâques, l'adolescent se lève tôt et il prend un vol de Lille jusqu'à Lyon avant de monter dans un taxi direction le chalet dans lequel l'attend sa famille et plus précisément sa mère Gradiella, son beau-père Xavier Flactif et ses trois demi-frères et sœurs, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario s'entend parfaitement bien avec tout le monde puisque Gradiella, sa mère, a divorcé peu de temps après sa naissance, donc l'adolescent a toujours connu Xavier qui considère Mario comme son propre fils. Il fait pas de différence, c'est vraiment le beau-père cool quoi. Dans le taxi qui mène jusqu'au chalet, Mario ne se lasse pas du paysage du Grand Bornand qu'il connaît depuis sa naissance puisque Xavier et Gradiella s'y sont installés depuis plus de 14 ans maintenant, plus précisément dans une zone appelée Chinaillon, petit village dans la commune du Grand Bornand. C'est là qu'ils ont fait construire le grand chalet de 300 mètres carrés sur 4 niveaux qui attise pas mal la jalousie, mais tout ça on en reparlera. Lorsqu'il arrive au chalet vers 10h, Mario se retrouve planté devant la porte d'entrée. Il a beau toquer encore et encore, personne ne vient lui répondre alors que toute sa famille sait qu'il arrive. C'est Xavier, son beau-père, qui lui a commandé le taxi, sa mère l'a appelé il y a 2 jours et elle lui avait pris les billets d'avion. Impossible de ne pas savoir qu'il arrive. L'adolescent fait le tour du chalet, vérifie toutes les portes et tous les volets, mais Mario ne comprend pas. Pourtant ce matin il a pris une douche, il sent bon, il est prêt, il est content d'arriver ici, mais pourquoi personne ne veut venir lui ouvrir dans ce foutu chalet ? Alors, avec son portable, il appelle à l'intérieur. Ça sonne, mais toujours personne. Et les voitures de la famille ne sont pas là non plus. Mario compose aussi le numéro de sa mère, de son beau-père. Il tombe sur la messagerie. Pendant 3 heures, l'adolescent reste planté devant le chalet à attendre. Il n'a de toute façon nulle part où aller. Il a tenté de joindre sa grand-mère, ses tantes, qui lui ont tout dit ne pas avoir de nouvelles de la famille. À 13h, Mario laisse un mot sur la porte, disant qu'il est bien arrivé, et il décide d'aller dans un restaurant du coin, dans lequel il croise Christine, secrétaire de l'école de ski et très bonne amie de sa maman, qui décide bien évidemment d'aider l'adolescent. Mario, c'est pas un enfant, c'est un adolescent, il a 14 ans, mais Christine, l'amie de la famille, elle va pas le laisser comme ça, livré à lui-même, il a pas d'argent sur lui, il a pas les clés pour entrer dans le chalet, donc l'ami décide d'appeler la gendarmerie, qui va simplement lui répondre que bon, la famille est peut-être partie en week-end, elle a oublié l'adolescent. Pas de panique, ils vont sûrement revenir là bientôt dans la nuit ou au pire lundi matin. Voilà, ils ont pas envie de s'embêter parce que une famille avec 3 enfants a disparu, ils ont autre chose à faire, ce qui fait que le chalet de la famille Flactif va du samedi au lundi matin être complètement laissé à l'air libre, ce qui va massacrer la scène de crime. Et pendant ce week-end, vous allez voir qu'il va s'en passer des choses. Tout d'abord, vers 22h30, Hélène et Patrick, un couple d'amis, décident eux aussi d'aller voir ce qu'il se passe. Ils ont vu Mario, qui dit être sans nouvelles, donc le couple va au chalet. Ils réussissent à ouvrir une porte qui est ouverte alors que Mario, à son arrivée ce matin, n'avait pas réussi à entrer. À l'intérieur du chalet, le couple d'amis comprend que quelque chose ne va pas. Et pour une bonne raison, tout est ultra bien rangé. Ils connaissent bien les Flactifs et jamais ils n'ont vu le chalet aussi propre. Sur les 300 mètres carrés et les plusieurs étages, il y a aucun poil qui dépasse. Alors, il y a bien quelques dents de lait qui sont enfoncées dans le parquet et une douille de pistolet qui traîne sous les rideaux un peu plus loin, mais ça, le couple ne le voit pas. Et puis, bon, les gendarmes ne veulent toujours pas intervenir, donc Hélène et Patrick repartent. Le dimanche, Christine, elle aussi, vient au chalet avec Mario qui s'inquiète énormément pour sa famille, vous imaginez l'angoisse quand même. Ils réussissent eux aussi à entrer et font le tour du chalet qui est complètement vide. Tout est propre, bien rangé, il ne manque que certaines couettes dans les chambres des enfants. Christine et Mario repartent de nouveau sans plus de réponses à leurs questions. Ils repasseront quelques heures plus tard et cette fois, 2 ordinateurs portables sont allumés. Un gros dossier de documents personnels est posé sur la cheminée et semble avoir été fouillé. Entre leur passage, quelqu'un passe et fouille bel et bien le chalet des Flactifs. Christine rappelle de nouveau la gendarmerie qui, désolé de l'expression, mais n'en ont absolument rien à foutre. C'est-à-dire que on leur dit qu'une famille a complètement disparu, qu'on ne sait pas où ils sont, qu'ils ne répondent à personne, qu'ils ont 3 enfants avec eux, mais les gendarmes du Grand Bornand à ce moment-là n'ont pas envie de s'embêter avec cette affaire. C'est dimanche, il y a raclette, à 17-18h faut faire un petit peu la circulation, on va quand même pas lancer tous les effectifs là autour du chalet, il y a autre chose à faire. Il faudra donc attendre le lundi matin pour que la disparition de la famille Flactif intéresse quelqu'un. Nouvelle nuit d'angoisse pour Mario qui est toujours chez les amis de ses parents. Le lundi 14 avril 2003, enfin les gendarmes débarquent après un bon week-end bien pépère dans la station du Grand Bornand et ils sont formels. Effectivement, la famille Flactif a bien disparu. Bien joué Sherlock, ça fait 2 jours qu'on essaie de vous le faire comprendre. Et les premiers gendarmes qui débarquent sur place comprennent que si le départ est volontaire, il a été fait dans l'urgence. Le frigo est plein, de la nourriture est prête à cuire sur la gazinière, les PC portables sont encore sur place. Alors, les recherches sont enfin lancées, on recherche les véhicules de la famille, les lacs sont sondés, un hélicoptère regarde au-dessus des ravins, mais rien ne ressort. Thierry Bourret, lieutenant-colonel en charge de l'affaire, voyant que rien n'est trouvé, fait appel à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle, criminels de la gendarmerie nationale. C'est généralement eux qui sont appelés sur les crashs d'avions ou les accidents de voiture par exemple pour retrouver des traces de victimes et quand même mettre quelque chose dans le cercueil pour pouvoir se recueillir sur une tombe. Ils sont épaulés par les tiques, rien à voir avec les insectes qui vous sucent le sang, on parle là des techniciens d'identification criminelle qui, du jeudi 17 au lundi 21 avril, passent le chalet de la famille Flactif au peigne fin. C'est à ce moment précis, une semaine après la disparition de la famille Flactif, que l'affaire plonge dans l'horreur. Du sang est retrouvé entre les lames du plancher. Une douille de calibre 6.35 qui correspond à un petit pistolet est découverte. Mais plus horrible encore, des dents de lait appartenant à l'un des enfants Flactif sont enfoncé dans le plancher, comme si sa tête allongée sur le parquet, la bouche ouverte, avait été frappée avec des coups de poing ou à l'aide d'un objet contondant qui lui avait fait perdre ses dents. Il y a aussi des bouts de moquette qui sont découpés dans les chambres qui font la taille d'un corps humain, comme si le ou les tueurs n'avaient pas pu justement nettoyer cette moquette et avaient préféré la découper. De retour dans le salon, les experts scientifiques remarquent que leur produit, le fameux Blue Star qui révèle les traces sanglantes, brille dans tous les sens. La pièce de vie du chalet a été le lieu d'un véritable massacre. Dans un coin, des litres de sang semblent s'être déversés. Des gens sont forcément morts ici. Et au milieu de tout ce carnage, il y a un ADN masculin. Un petit ADN qui n'a pas été nettoyé et qui est passé entre les coups d'éponge et l'eau de Javel, qui n'appartient pas à la famille Flactif. Mais alors, tout le monde se pose une question à l'intérieur du chalet. Où est le charnier? Où sont les corps de la famille Flactif? On a quand même un couple d'adultes, Gradiella et Xavier, et leurs trois enfants, Grégory, Laetitia et Sarah. Cinq corps, c'est pas quelque chose qu'on cache comme ça, je veux dire. Comme toujours, on entre dans les détails un peu sordides, mais ça sent, ça attire les animaux. Alors bon, je sais que certains ont caché leur famille sous la terrasse, mais je vous rassure, on l'a fouillé à l'époque, les Flactifs sont pas sous le chalet. Le sang de Xavier est retrouvé dans le salon. Grégory, quant à lui, a été frappé par une arme contondante dans la cuisine. Du liquide a été projeté sur la table. Concernant Sarah, on retrouve ses traces sur la table de cuisine, sur des fenêtres, sur un fauteuil, comme si elle avait tenté de s'enfuir, mais avait été frappée encore et encore par le tueur. Gradiella, quant à elle, a été frappée lorsqu'elle montait l'escalier de la cave. Surprise, elle n'a rien pu faire. Laetitia, de son côté, a été achevée dans sa chambre à l'étage. Elle s'est cachée sous son bureau, a tenté de grimper sur son lit mezzanine, mais a fini par s'effondrer sur le sol de sa chambre, certainement sous les coups. Les traces de sang révélées ici et là en disent donc beaucoup sur l'horreur qu'a vécu la famille Flactif, mais on reviendra sur le scénario détaillé de cette triste nuit d'avril 2003. Et le problème dans cette affaire, c'est que bon courage pour trouver un coupable. Parce que Xavier Flactif, niveau personnel, il était aimé, il avait des amis, c'était un type généreux. Mais niveau professionnel, c'était un arnaqueur. Il a volé de l'argent à pas mal de personnes, à plusieurs plaintes aux fesses. Il a même une association de gens qu'il a arnaqué qui s'est créée. Et même sa femme de ménage le déteste. Voici un extrait.
C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous?
Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinez tout. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et le matin, je suis arrivée chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu commences la vaisselle. Et je suis rentrée, ils m'ont pas entendu, et lui disait à sa femme, là, Graziella, tu vas lui faire vider les chiottes, ça pue la merde ici, il y a une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Bon, j'ai rien dit, j'ai fini ma matinée, je suis rentrée, je lui ai raconté, et lui m'a dit, bon, allez, c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières, l'agent immobilier d'ici m'a dit, il a de la chance qu'il ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là. À cette heure-ci.
Ce couple que vous voyez à l'écran, ce sont les Otia, David et Alexandra. David n'a pas d'emploi fixe, Alexandra quant à elle a donc travaillé comme femme de ménage chez la famille. Et le couple a des antécédents avec les Flactifs puisque Xavier les a un petit peu baladés. On leur a promis un chalet en location pour lequel ils ont donné une caution et ont payé des loyers malgré le fait qu'ils n'y avaient pas accès puisque le chalet n'était toujours pas fini de construire. Alors les Otia ne se sont pas laissés faire, s'en est suivi une guerre entre les Otia et les Flactifs, l'un voulant soit récupérer son argent ou avoir accès au chalet, l'autre menaçant la famille, leur disant que si ils arrêtaient de payer le loyer du chalet auquel ils n'ont pas accès, il allait le louer à un autre couple qui pourrait très bientôt en profiter vu que les travaux sont bientôt terminés. Pour vous expliquer un petit peu plus clairement l'entourloupe, parce que moi aussi au début j'ai eu du mal à comprendre, c'est comme si vous arriviez dans une nouvelle région, vous rencontrez un propriétaire et il vous dit « Eh ben ça tombe bien, je vais avoir un logement tout neuf qui va bientôt être disponible, mais si vous le voulez, il faut signer le bail tout de suite, donner la caution et commencer dès maintenant à payer le loyer. En attendant, je vous loge dans un autre appartement plus petit ou dans des chambres d'hôtel un petit peu miteuses, mais vous continuez à payer le loyer plein pot. » Et forcément, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si ça met un petit peu du temps à arriver jusqu'en haut, vous commencez à vous dire que le type à qui vous payez le loyer pour avoir un logement tout neuf et qui en échange vous paye la chambre d'hôtel ou un logement qui ne correspond pas du tout à ce pour quoi vous avez signé, eh ben vous a arnaqué. Et la mort des Flactifs, ça ne touche pas du tout le couple Otia, encore moins David, qui fait le beau devant les journalistes, observe les gendarmes à la jumelle depuis les hauteurs, mais aussi et surtout, est la dernière personne à avoir vu Xavier Flactif vivant. Pour une raison un peu bizarre en fait, le vendredi soir, Xavier aurait contacté David pour lui demander de remettre les clés à de nouveaux locataires qui arrivaient au Grand Bornand. David a accepté sa mission et puis a rencontré un Parisien qui venait voilà pour la semaine au Grand Bornand. Il lui a donné les clés du chalet sur ordre de Xavier, d'après lui. Sauf que le Parisien expliquera plus tard que David s'est présenté comme le propriétaire du chalet et qu'il a même pas fait d'état des lieux. Et d'ailleurs, le couple Otia, dans les jours qui suivent le massacre, ils déménagent dans un tout nouveau chalet toujours appartenant à Xavier, pour lequel ils ont soi-disant un bail locatif signé avant le massacre. Mais ça n'interpelle personne sur le moment puisqu'apparemment c'était prévu, le couple a les clés et de toute façon on a 5 corps à retrouver donc on a autre chose à faire de regarder si le bail est bien fait. Surtout que dans le même temps, le 4x4 de la famille est retrouvé en Suisse près de l'aéroport de Genève. Le véhicule semble à première vue propre, il est même verrouillé, comme si Xavier en partant avait pris les clés avec lui. Sauf que dans le coffre de ce 4x4, analysé par les experts scientifiques, on retrouve des traces de sang appartenant chacune à Gabriella, Xavier et leurs 3 enfants. La piste criminelle est confirmée, la famille a été massacrée à l'intérieur du chalet et les corps ont été transportés dans leur propre véhicule. Mais alors, qui étaient vraiment les Flactifs? Qui aurait pu leur en vouloir au point de les massacrer du père jusqu'à la plus petite d'entre eux? Eh bien, vous allez voir que des types qui détestaient Xavier Flactif, donc suspects, on en a des brouettes entières. Qui est la famille Flactif? Xavier Flactif, au début de l'affaire, il est présenté comme un homme assez connu dans la région du Grand Bornand. Il est promoteur immobilier, il achète des terrains, fait construire des chalets, les vend ensuite à des investisseurs qui les mettent en location ou bien à des retraités qui veulent une résidence secondaire pour les vacances. Tout semble donc être parfaitement rodé, sauf que dans ce que les médias appelleront plus tard le système Flactif, ça se passe rarement bien. Je vous résume le truc très simplement. Xavier vend des chalets à des gens qu'il rencontre en passant des annonces ou bien comme ça par le bouche à oreille et il leur promet donc un chalet ou un appartement tout neuf. L'intéressé a juste à acheter le logement, le projet que lui propose Xavier, et dès que le bâtiment sera debout, il en deviendra propriétaire et touchera les loyers qui rembourseront le crédit à la banque. Alors si l'immobilier c'était aussi simple que d'acheter un appartement et de vivre de ses loyers, ça serait. Surtout que la majorité des gens qui font confiance à Xavier achètent un logement, un projet qui n'est pas encore construit. C'est-à-dire que la personne fait un prêt à la banque. Elle donne cet argent à Xavier pour le projet qu'il se met donc dans les poches. Et le propriétaire qui a signé pour ce projet est endetté au niveau de la banque. On ne parle pas de projet à 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 euros. On parle de 100 000 à 200 000 euros à chaque fois à rembourser sur des années et des années. Et les problèmes s'enchaînent. Certains chalets sont vendus alors même que le permis de construire n'est pas encore passé à la mairie qui refuse certains projets. Sauf que les acheteurs y sont désormais endettés. Impossible de se débarrasser du prêt pour le projet ni de le revendre puisqu'il n'existe pas. Et la banque leur a donné l'argent qu'ils ont donné à Xavier, donc il faut rembourser les dettes et aucun loyer promis ne tombe. Donc beaucoup se retrouvent complètement ruinés à tel point qu'une association nommée Association qui regroupe tous les escroqués du promoteur Xavier Flactif va voir le jour. Et dans ce genre de cas, quand vous vous faites arnaquer, c'est pas aussi simple que de déposer plainte, de récupérer votre argent et puis d'annuler le prêt à la banque. Parce que la banque, elle s'en fout de votre plainte. L'argent, elle vous l'a donné. Cet argent, vous l'avez donné à Xavier Flactif. Bah, tant pis pour vous, vous êtes obligé de continuer à rembourser votre prêt à la banque et pendant la procédure, même si certains ont donc créé une association pour se mettre contre Xavier, il y a personne qui va débarquer avec de l'argent magique pour vous rembourser les sommes que vous êtes fait arnaquer puisque Xavier, ces sommes, il ne les a plus. En fait, il fait un espèce de système pyramidal et au bout d'un moment, il se fait avoir. Il peut acheter ses premiers terrains, les logements sortent vraiment de terre et au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Donc des types qui sont ruinés et qui en veulent à mort à Xavier Flactif, il y en a vraiment à l'appel. Mais de là à massacrer toute une famille... Côté professionnel, Xavier, c'est pas une lumière. Certes, il réussit à arnaquer des gens, mais son système est pas viable. Il a déjà été interdit de gestion de société en 1998 par la cour d'appel de Douai, mais en 2003, au moment de la disparition, il avait mis Graziella à la tête de ses affaires. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, le couple n'allait plus pouvoir continuer comme ça. Est-ce que Graziella se rendait compte de tout ce système de tous ces problèmes et du fait que tout allait s'effondrer un jour ou l'autre, certainement. D'ailleurs, concernant Graziella, pour vous la présenter un petit peu, de son côté, elle est mariée quand elle rencontre Xavier en 1989. Elle est tout juste mère de Mario, à 23 ans, et se trouve un travail de secrétaire. Elle entre donc en contact professionnel avec Xavier Flactif, et ce sont deux personnalités complètement différentes qui se rencontrent. Graziella, c'est une femme de 23 ans, réservée, un peu timide, qui reprend le travail après avoir eu son premier enfant. Voilà, elle essaie de s'intégrer dans la boîte. Xavier, de son côté, fait tout pour la mettre à l'aise. Il l'invite au restaurant, rigole bien avec elle. Elle devient sa meilleure amie au fil des mois. Et lorsque Graziella annonce son divorce parce que ça ne va plus avec le père de Mario, le couple se forme très naturellement et ont trois enfants. Sarah, Laetitia et Grégory, qui au moment des faits ont donc 10, 9 et 7 ans. En 1999, fuyant ses soucis financiers parce que des gens viennent toquer chez lui tous les 4 matins pour lui réclamer de l'argent, Xavier décide de s'installer définitivement avec sa femme et ses enfants au Grand Bornand. Ici, Xavier remet en place le même système. Il achète des terrains, promet des chalets, vend des habitations. De nouveau, les affaires remarchent. Xavier réussit à vendre pour 6,7 millions de biens immobiliers entre 1999 et 2003. Le couple s'achète de beaux vêtements, de belles voitures, Porsche, 2x4x4, une Mercedes, une moto, un bateau. Leur arrivée est donc remarquée au Grand Bornand et la jalousie bien française se fait ressentir. Les enquêteurs le savent, même si les Flactifs avaient énormément d'ennemis, la clé de l'affaire, c'est certainement cet ADN masculin inconnu retrouvé sur la scène de crime. Donc, c'est pas dur, on va convoquer un petit peu tous les proches des Flactifs qui sont au Grand Bornand et on va prendre leur ADN. Et devinez, dans tout ce groupe, qui ne veut pas donner son ADN ? Haine et vengeance.
Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, s'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire, ça ? Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Ou alors, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, hein, c'est pas...
Pourquoi il aurait eu trop peur?
Je sais pas, avec tous les ennemis qu'il avait, il a peut-être peur de rester en bas tout seul.
Le 16 septembre 2003, David Otias accompagne Alexandra et un couple d'amis, leurs seuls amis dans le coin, Stéphane et Isabella Remza, sont arrêtés. Ce couple à Remza, vous ne le connaissez pas encore, c'est normal, vous en faites pas. Tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est qu'ils sont quasiment les seuls amis des Otias dans le coin. Donc si David, qui ne veut pas donner son ADN pour l'instant, a parlé à quelqu'un, c'est bien eux. David Otia est placé en garde à vue. On prend son ADN qui match avec l'ADN inconnu retrouvé dans le chalet des Flactifs. Mais pour le moment, bah ça veut pas dire grand-chose parce que David connaissait Xavier, il est déjà venu plusieurs fois au chalet. C'est normal qu'on retrouve son ADN dans le chalet qui, malheureusement, n'a pas été nettoyé par le tueur. Sauf que lorsqu'on demande à David pourquoi est-ce que l'on retrouve son ADN sur la scène de crime, l'homme, au bout de 30 minutes de garde à vue, fond en larmes et explique qu'il veut soulager sa conscience. En pleurs, dans la brigade de gendarmerie d'Annecy, il est à peu près 9h lorsque David commence son récit, qui, attention, ne marque pas du tout la fin de notre affaire, mais son commencement, puisque si l'affaire Flactif est aujourd'hui autant connue en France, c'est bien sûr de par son horreur, mais aussi à cause du complot qui a mené au massacre, puisque David est loin d'être le seul impliqué malgré ce qu'il dit dans un premier temps. Mais aussi, vous allez voir que son tout premier récit n'est pas du tout cohérent avec ce que l'on retrouve sur la scène de crime. Ce 16 septembre, David explique qu'il n'en peut plus de revivre cette horreur. Oui, il a fait une connerie, mais Xavier l'a arnaqué. Il n'a jamais eu son chalet, lui a volé de l'argent, l'a mis dans une situation précaire, devant déménager encore et encore. Le 11 avril, en fin d'après-midi, il décide donc de rendre visite au Flactif pour enfin régler cette affaire de chalet. C'est la petite Laetitia qui lui ouvre la porte et qui appelle ses parents pour qu'il rentre à la maison. Gradiella rentre apparemment la première et explique à David que Xavier ne va pas tarder. Et effectivement, il arrive dans les 10 minutes. S'ensuit alors une vive altercation. Xavier, qui a l'habitude de se faire un peu bousculer par les gens qu'il a arnaqués, ne se démonte pas. Surtout qu'il sait que le couple a des problèmes d'argent, deux enfants à charge. Ils n'ont aucun moyen de le poursuivre en justice. Alors, David, qui veut faire peur, sort son arme, un revolver de calibre 6.35 et menace Xavier avec. Grosse erreur, il met son index sur la détente. Le cran de sûreté est enlevé. Une seule petite pression et la balle... Xavier s'effondre au sol, touché à la tête. Un accident, selon David, qui raconte.
Les enfants prenaient leur goûter, ils ont pas trop crié. Moi, j'étais complètement affolé, sachant plus quoi faire. J'ai alors tiré sur eux. Je sais plus à combien de reprises, je suis descendu chercher Gradiella, elle était cachée derrière la porte dans le sous-sol. J'ai tiré, elle n'a pas eu le temps de crier. Je suis ensuite remonté et Laetitia était plantée devant moi. J'ai tiré aussi.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Au milieu du carnage, David tente de garder son sang-froid. Il s'enferme à clé, tire les rideaux et commence tout de suite à se débarrasser des corps. Son idée est de placer toute la famille dans le 4x4 de Xavier et le reste on verra après. Il tire Xavier, Gradiella, Laetitia, Sarah et Grégory en les mettant dans des couvertures pour les faire glisser plus facilement puis les installe à l'arrière du véhicule. Ensuite, il entreprend de nettoyer le chalet. Il utilise une bassine d'eau et une éponge pendant 2 heures, il fait disparaître toute trace du massacre, sauf les plus infimes qui seront retrouvées par les experts qui, eux, sont persuadé qu'une arme contondante a été utilisée, comme un rouleau à pâtisserie par exemple, mais on en reparlera dans le second scénario de l'affaire. Après ces 2 heures de nettoyage, David se dit que pour faire disparaître rapidement les corps, il va les brûler. Alors, au volant du 4x4 de Xavier, il retourne chez lui, attrape de l'essence et du liquide inflammable, puis se rend à la forêt du Roi du Mont, un endroit complètement paumé à 30 minutes de route du Grand Bornand qui n'a pas été passé au peigne fin. David se gare et raconte.
Je prends la précaution de les déposer les uns sur les autres afin de faire un tas. J'asperge les corps avec tous les liquides que j'ai à dispo et je fous le feu à l'aide d'un briquet. Je reste sur place 2 à 3 heures pour m'assurer d'une complète combustion. Il faisait nuit, j'allais et venais à proximité. Il y avait beaucoup de fumée. Il restait quelques bouts d'os que j'ai dissimulés à 2 ou 3 mètres à l'aide de la mousse et de la neige.
David brûle aussi les morceaux de moquette qu'il n'a pas pu nettoyer et qu'il a donc découpé. Lorsqu'on demande à David Otia si d'autres personnes sont au courant du massacre, il explique que oui, sa compagne Alexandra et ses amis eux aussi en garde à vue, Stéphane et Isabella Remza, qui eux aussi sont bavards. Alexandra explique par exemple que David lui a dit s'être attaqué aux enfants en premier. C'était compliqué parce que, je cite,
« il courait partout pendant le massacre ».
Le couple Aremza, quant à eux, explique que David leur a avoué les meurtres quelques jours après. Stéphane a même été emmené sur le lieu de crémation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a même un livreur de pizza qui a failli y passer parce que il a livré une pizza au chalet des Flactifs alors même que David était en train de charger les corps dans le 4x4. Mais heureusement, il faisait nuit, donc il a rien vu et du coup il s'est pas fait shooter. En fait, le livreur de pizza, il est arrivé, il a toqué partout, il a fait le tour du chalet, il a essayé d'ouvrir les volets, il est même arrivé au niveau du garage mais n'a pas regardé à l'intérieur du véhicule de Xavier alors qu'il y avait tous les corps à l'intérieur. Puis le livreur a reçu un appel de voisin qui lui disait qu'il s'était trompé d'adresse. Je pense franchement que s'il avait insisté, on aurait eu une 6e victime dans l'affaire Flactif. Mais alors, qui est vraiment David Otia? D'où vient-il? Et pourquoi son projet meurtrier a été soutenu par sa compagne Alexandra et son couple d'amis, les Aremza? Eh bien ça, les enquêteurs le savent déjà, puisque le quatuor a été mis sur écoute, a été suivi, leur vie a été fouillée. Et après avoir écouté ce que j'ai à vous dire, vous allez comprendre que le massacre n'est pas un accident, comme le dit David. Tout ne s'est pas passé aussi proprement qu'à coup de pan-pan-pan et puis c'était fini. Non, l'affaire Flactif était un massacre prémédité. Lorsqu'il se rend au chalet de la famille ce vendredi d'avril 2003, David a pour but de massacrer tout le monde. David n'assume pas du tout la violence des faits. L'affaire Flactif, c'est l'histoire d'une haine qui a monté. Jusqu'à explosion. La personnalité du quatuor. David Otia, il naît le 23 octobre 1972 à Arras, dans les Hauts-de-France. Il vient d'une famille d'ouvriers, comme la majorité des Français, dont moi également. David, il est décrit lors de son enfance comme un gamin taquin, joyeux, qui ne manque absolument de rien. Sa famille ne roule pas sur l'or, mais tout le monde se serre les coudes. Chacun met un petit peu pour organiser les repas de Noël, acheter les cadeaux. Il a une sœur Karine et un frère Michael, dont il est resté très proche. À l'école, David réussit plutôt bien, c'est pas un gamin à problème, et c'est le chouchou de son père qui le décrit comme un enfant facile à vivre. Calme, gentil, pas violent. C'est un gars sans histoire, sportif, qui le 1er août 1992, peu avant ses 20 ans, s'engage pour son service militaire. Une fois de plus, il ne fait pas parler de lui. En 1994, il est embauché comme ouvrier et soude des pièces toute la journée. Mais sa situation ne lui plaît pas, voilà, il est à l'usine, sur la chaîne, 8 heures par jour en train de souder. Et il se dit que, mais est-ce qu'il va vraiment faire ça toute sa vie? Le comportement de David se met alors à changer. Il s'absente de plus en plus, commence à attirer les problèmes. On dit dans le coin qu'il vole des voitures, les retape, puis les revend, ce qui ne fait pas du tout peur à Alexandra. Le côté bad boy, elle l'adore. Employée de bureau à la mairie, elle rencontre David lors de l'une de ses sorties entre amis. David est décrit par la famille d'Alexandra et ses amis comme un garçon électrique, réservé, mais qui peut d'un coup, s'il est contrarié, péter un plomb et complètement se transformer. Malgré tout, Alexandra le défend et n'écoute pas les mises en garde de sa famille. Le 3 janvier 1998 vient au monde leur premier enfant, Ophélie et à partir de là, les problèmes s'enchaînent. Et c'est toujours très important de fouiller dans le passé des protagonistes de ce genre d'affaires, puisque David, s'il a vraiment massacré toute la famille, sa violence, elle ne sort pas comme ça de nulle part. Il a forcément montré des signes bien avant. Au moment où le couple a son premier enfant, ils emménagent dans un appartement à Biache-Saint-Vaast, toujours dans le Nord, appartement dont les grands-parents d'Alexandra se portent garant. Sauf que dans le même temps, David est licencié. Alexandra ne travaillant pas, les loyers s'accumulent et les grands-parents de la jeune mère se retrouvent à devoir 6 100 € de loyer impayé. Et c'est là que David s'emporte. Lorsque le grand-père d'Alexandra leur rend visite pour réclamer les loyers et demander une explication, David attrape le grand-père par le callback et le jette dans le décor en dehors de l'appartement. Il y a même également une octogénaire dans la même résidence, une certaine Edwige, qui a porté plainte contre David puisqu'il l'a poussé à terre et il l'a frappé parce qu'elle a eu le malheur de lui demander pourquoi il avait mis un espèce de brise-vue sur sa terrasse. David a pris ça pour une attaque, il l'a très mal pris et a frappé la dame de 80 ans qui a porté plainte le lendemain. Donc David, quand on regarde autre part que la description qu'en font ses parents, c'est pas forcément le gendre idéal. C'est un type qui peut se montrer d'un coup très violent, même face à des personnes âgées. Alors, quand on sait que Xavier Flactif l'a arnaqué concernant son logement et le chalet qu'il n'a jamais eu, sa personnalité pourrait coller. Leur deuxième enfant, Jimmy, né au tout début des années 2000, Alexandra vit d'allocation familiale à ce moment-là. David lui fait de l'intérim ici et là. Après avoir eu des soucis avec un autre logement, le couple, à travers les petites annonces, tombe sur un beau chalet en Haute-Savoie, grand bornant, et décide d'appeler pour se renseigner. Ils aimeraient bien changer d'air, de vie et pourquoi pas déménager à la montagne. Ils tombent alors sur Xavier Flactif qui leur propose un logement mais qui ne sera pas terminé avant le 1er décembre 2001. En attendant, ils peuvent venir dans un autre chalet. Les Otia acceptent et partent donc pour le grand bornant le 29 septembre 2001. Ils s'installent dans le chalet appelé le Cortinaire qui a été divisé en deux habitations et le couple est plus heureux que jamais. Enfin, ils vont vivre à la montagne dans un beau logement. David a trouvé du boulot dans le coin chez un groupe spécialisé dans le pneu et l'entretien automobile. Alexandra, elle, accepte de faire du ménage chez les Flactifs. Elle ne restera femme de ménage finalement que 72 heures puisqu'apparemment Gradiella l'a chopée en train de fouiller dans les placards. Heureusement, David réussit à tenir son emploi et il fait même venir sur place l'un de ses amis, Stéphane Aremza, qui lui aussi avait bien envie de déménager à la montagne et est donc embauché dans la boîte. Il vit chez les Otia qui doivent donc bientôt déménager dans un plus grand chalet et Stéphane pourra alors avoir sa propre chambre et faire tranquillement toutes ses démarches pour trouver un logement et faire lui aussi venir sa compagne. Sauf que vous connaissez maintenant le système Flactif, le chalet flambant neuf promis au mois de décembre n'est pas du tout prêt, donc les Otia et Stéphane continuent de vivre dans leur petit appartement. Et d'ailleurs, entre David et Stéphane, ça se passe bien, ça se passe très bien, ils travaillent ensemble, mais du coup, ils s'intègrent pas à l'équipe, dans l'usine, etc. Et leurs supérieurs, leur font remarquer que voilà, ils font des conneries toute la journée, ils discutent, ils travaillent pas forcément bien, et donc, ils vont finir par se faire virer en février 2002. Et à partir de là, de cette perte d'emploi, c'est une espèce de descente en enfer qui s'engage pour David, Alexandra et Stéphane. Puisque Xavier continue de leur pomper de l'argent. Il leur fait signer le contrat de location pour le futur chalet qui est en construction. Le couple verse 1 670 € de caution et signe pour un loyer de 850 € qu'ils doivent payer au risque de perdre leur future location. Et une fois les sommes empochées, Xavier Flactif explique à David, Alexandra et Stéphane qu'ils doivent quitter leur chalet actuel, celui qui dépend pané parce qu'il doit être loué à d'autres personnes, même si leur nouveau chalet n'est pas prêt. Cet homme, c'est un certain Henri A, qui vit sur l'île de La Réunion et qui explique que il est pas au courant de tout ça, Xavier lui a vendu son projet et c'est lui qui gère sur place ses locations. Lui, il a rien à voir là-dedans, il a juste apporté l'argent. Alors, tous les trois se retrouvent dans deux petits studios à l'hôtel et comprennent que Xavier les a complètement enflés lorsqu'ils réussissent à retrouver le propriétaire du chalet, qui quant à lui n'est pas du tout au courant du fait que le chalet n'est pas encore sorti de terre. Une fois de plus, Xavier a berné tout le monde et la haine monte encore d'un cran lorsque David et Stéphane mettent le feu à l'un de ses chalets qui lui est enfin terminé de construire, financé grâce à ses arnaques en avril 2002, un an avant la tuerie du Grand Bornand. Les pompiers arrivent tard, ils ont à peine le temps d'éviter que le feu ne se propage au chalet voisin. Xavier portera plainte contre X à l'époque, de toute façon des ennemis qui auraient voulu cramer son chalet, il en a des tas, donc ne pense même pas à David Otia, le petit ouvrier qui ne lui fait absolument pas peur. N'ayant plus d'emploi stable, coincé au Grand Bornand, David et Stéphane se mettent alors à voler des voitures, cambriolent des chalets pour gagner leur vie. Beaucoup sont des résidences secondaires, donc il leur suffit de forcer la porte et de se servir en électroménager. Depuis, Isabelle a rejoint Stéphane avec leurs enfants dans un logement qu'il a réussi à louer. David et Alexandra vivent toujours, quant à eux, dans l'un des studios prêtés entre guillemets par Xavier le temps que le chalet soit terminé. Alors, le couple en a marre et Alexandra réussit à trouver un vrai chalet à louer au prix de 762 euros. Fini Xavier Flactif qui leur faisait miroiter un chalet tout neuf. Là, la famille Autois a enfin un logement décent. Ils paient un vrai loyer à une propriétaire qui leur loue un vrai logement. Sauf que Xavier, ils leur doivent de l'argent, puisque les Otia, ils ont versé une caution, ils ont versé des loyers pour un chalet dans lequel ils n'ont jamais pu emménager, parce que les loyers, ils étaient obligés de les payer à Xavier, sinon Xavier les menaçait en disant que le jour où le chalet sort de terre et qu'ils sont pas à jour sur les loyers, il le louera à quelqu'un d'autre. Alors, le vrai propriétaire du chalet, le fameux Henri qui lui aussi a fait confiance à Xavier et a acheté un chalet qui n'existe pas, à force d'être harcelé par David et Alexandra, va finir par leur rendre leur argent parce que c'est lui le vrai propriétaire, lui aussi il pourrait avoir des problèmes, mais c'est pas suffisant pour le couple qui a toujours la haine de s'être fait avoir. Et c'est pour ça, à cause de tous ses antécédents, qu'après le massacre, David et Alexandra vont rédiger un faux bail pour enfin habiter dans l'un des chalets de la famille Flactif qui, selon eux, leur est dû. En fait, pour vous expliquer la situation, David, à ce moment-là, il était persuadé que, en massacrant la famille Flactif, il allait pouvoir s'approprier leurs biens, s'approprier leur chalet, gagner de l'argent, être tranquille au Grand Bornand, avec les biens de la famille Flactif, il voulait remplacer la famille. Mais là, ça relève quand même de la psychiatrie. Je veux dire, comment est-ce qu'il a pu penser qu'en massacrant tout le monde, il allait pouvoir littéralement se faire passer pour Xavier Flactif? Cette idée, elle lui vient d'un reportage qu'il voit dans 7 à 8 sur TF1, diffusé le 19 janvier 2003, dans laquelle l'émission retrace l'histoire d'Alfredo Stagnieri, un homme qui a abattu deux couples pour s'approprier leurs biens, gérer leur entreprise et faire croire à leur fuite. On a donc dans tout ce que je viens de vous raconter, un premier motif, Xavier a arnaqué et humilier les Otia, donc ils l'ont un peu là. Et le second motif, c'est que au moment des faits, David et Alexandra sont à deux doigts de se retrouver de nouveau à la rue, parce que le logement qu'ils louent bien proprement, tout ça bien carré, etc., sa propriétaire veut le vendre, et pour le vendre, elle veut le vendre libre, donc elle demande aux Otia de partir. Le couple va alors de nouveau se rabaisser à aller voir Xavier pour lui demander, lui qui est multipropriétaire au Grand Bornand, si il a pas un appartement pour eux. Xavier leur dit que si, il l'a, mais le loyer est trop cher pour eux. David et Alexandra repartent de nouveau, complètement humiliés. David ne supporte pas, et dans notre affaire s'ajoute à l'horreur la préméditation, puisque contrairement à ce que dit David lors de sa garde à vue, non, il ne s'est pas pointé comme ça chez les Flactif et ça a mal tourné. Son plan était préparé, puisque Stéphane, son ami, le dit. David lui a proposé 48 heures avant le massacre, le 9 avril, de venir avec lui pour étrangler la famille à l'aide d'une corde pour enfin pouvoir devenir propriétaire d'un chalet. Mais Stéphane, voyant que David ne rigolait pas du tout sur le chemin menant au chalet, s'est désisté, disant qu'il ne voulait pas participer à tout ça. Et donc, dans toutes ces personnes qui gravitent autour de David Otia, plutôt que de le dénoncer, d'essayer de le retenir et même de prévenir les flics, dès qu'ils ont appris que les Flactif avaient disparu dans les médias, n'ont rien dit et ont laissé David littéralement s'enfoncer dans sa folie meurtrière. Voici donc point par point ce qu'il s'est exactement passé à l'intérieur du chalet de la famille Flactif pendant le massacre ce soir du vendredi 11 avril 2003. Le véritable scénario. Ce vendredi, la tension est à son comble au Grand Bornand. Alexandra tente malgré tout de dissuader David, qui part vers 16h en direction du chalet des Flactifs, qui, de leur côté, font leur vie. Xavier doit livrer des encadrements de portes sur l'un de ses chantiers, et Gradiella, quant à elle, doit emmener les enfants à leurs activités, avant d'elle aussi passer sur les chantiers en cours. Reste Xavier à abattre, celui qui lui a promis un chalet qu'il n'a jamais vu. Eh bien, Xavier est le dernier à rentrer au chalet. C'est sur lui que David utilise son arme. Parce que bon, trois petits et une mère, c'est assez facile à maîtriser. On peut les abattre à coups de rouleau à pâtisserie. Mais dans sa grande lâcheté, ben David n'attaque pas à main nue Xavier. Faudrait quand même pas qu'il se fasse humilier une nouvelle fois. Le vendredi soir, lorsqu'il débarque au chalet, comme je vous le disais, c'est pour tuer. Le massacre est prémédité et voir la petite Laetitia lui ouvrir la porte ne change rien. David entre dans le chalet et demande aux enfants qui sont en train de prendre un petit goûter dans la cuisine si leurs parents sont là. Laetitia explique que non, mais qu'elle va tenter de joindre sa mère Gradiella, qui sera d'ailleurs la première à débarquer. Pendant ce laps de temps pendant lequel les parents Flactifs sont absents, David ne réfléchit pas. Il faut le faire. Après toutes les humiliations qu'il a subies, ce beau chalet de 300 mètres carrés sera bientôt à lui. Il a remarqué toutes les clés d'appartement qui traînent à l'entrée. Il va pouvoir tout mettre à son nom. Dans la cuisine, David attrape un rouleau à pâtisserie. Il prend le premier objet contondant qui lui vient sous la main. L'arme n'a jamais été retrouvée, mais vu que le massacre débute dans la cuisine, c'est la chose la plus logique à mon avis. Alors que Laetitia, Sarah et Grégory ne se doutent pas une seule seconde du danger, David lève au-dessus du crâne de Sarah son lourd rouleau à pâtisserie. Laetitia est entre-temps partie dans sa chambre pour réviser. Le premier coup part, le rouleau en bois s'abat sur le crâne de Sarah qui perd presque immédiatement connaissance après s'être tenu la tête par réflexe à cause de la douleur. Grégory s'étend, tente de partir, il sent le danger mais David le rattrape rapidement. Le garçon tente d'appeler à l'aide. Laetitia a entendu les cris, les bruits, les coups, elle n'a pas le temps d'appeler quelqu'un ni de s'enfuir. Sa chambre est à l'étage, impossible de sauter par la fenêtre et de toute façon, même si elle aurait pu, le temps de prendre la décision, il est déjà trop tard. Elle entend David essouffler qui monte les escaliers. Par réflexe, la petite se cache sous le bureau espérant que David va aller la chercher ailleurs pour avoir le temps de s'enfuir par la porte d'entrée. Malheureusement, David Otia est en chasse. Il regarde partout et trouve Laetitia sous son bureau et commence à frapper pour la faire sortir. Laetitia essaie de trouver une autre cachette, s'accroche à son lit mezzanine, essaie de grimper en hauteur, mais les coups sont trop forts. À son tour, elle perd connaissance et est achevée. Contrairement à ce que dit David, les traces de sang retrouvées à l'intérieur du domicile le prouvent. Non, pour la majorité des membres de la famille Flactif, il n'a pas utilisé d'armes à feu. Alors que Gradiella rentre, la mère de famille ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qui vient de se jouer à l'intérieur du domicile familial. Elle grimpe les escaliers, appelle ses enfants. David est juste à côté de la porte, planqué en attendant que la mère Flactif passe. Au moment où Gradiella arrive à sa hauteur, un coup part. La mère chute lourdement, puis est achevée. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans le chalet, on ne retrouve donc qu'une seule douille, alors que David dit avoir tiré sur toute la famille. Mais il est incapable de dire combien de coups il a tiré et combien de douilles il a ramassé, sûrement pour ne pas s'enfoncer encore plus dans le mensonge. Quand Xavier Flactif passe la porte, une nouvelle fois David est caché, cette fois avec son pistolet chargé. Il va tirer la seule balle, la seule douille qui sera retrouvée sur place. Peut-être dit-il quelque chose à Xavier. En tout cas, dans les 10 secondes qui suivent l'entrée de Xavier Flactif dans le chalet, un coup de feu. Le reste du scénario, vous le connaissez. David nettoie, charge les corps et part les brûler en forêt. Même si de mon côté, j'ai quand même un petit souci. Le chalet est grand. Il est retrouvé super propre par les enquêteurs qui doivent faire appel à des experts pour faire ressortir les traces de sang. Est-ce que vous pensez vraiment que David a nettoyé seul quand on sait que le chalet est visité plusieurs fois par la suite? Je ne peux accuser personne sans avoir de problème, mais je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. On connaît aussi beaucoup de détails concernant le nettoyage puisque David n'est arrêté qu'en septembre. Donc, au fil des mois, il se rend sur le lieu de crémation pour continuer de nettoyer et il se crée même un faux email pour prouver qu'il est propriétaire d'un chalet. Il écrit par exemple un texte qu'on retrouve sur un disque dur 10 ans.
Je sous-signais, Madame Gradiella Flactif, gérante de la SCI, atteste avoir vendu à Monsieur Otia David un chalet au Grand Bornand. Cette attestation tient lieu d'avis de paiement.
Ah bah si c'était si simple de devenir propriétaire, fallait me le dire avant, je serais pas en train de tourner dans un studio de 15 mètres carrés sous les combles. C'est bien évidemment David qui déplace le 4x4 des Flactif à l'aéroport de Genève. Il retourne au Grand Bornand grâce au couple Aremza et Alexandra qui l'attendent avec un véhicule plus loin. Mais alors, comment la justice va juger le quatuor? On a David le tueur, Alexandra celle qui ne l'a pas empêché d'aller chez les Flactif et qui dans toute cette haine a sa part de responsabilité, mais aussi le couple Aremza, les amis d'Eotia qui eux n'en voulaient pas tant que ça aux Flactif, mais ils sont restés là sans rien dire à regarder l'horreur s'écrire devant eux. Ils sont complices dans tout ça. Je m'attarde pas volontairement sur un truc parce que David, après ses aveux, comme beaucoup de criminels avant lui, ben il va se rétracter quand il va comprendre qu'il est certainement parti pour une peine de prison à vie. En fait, il va expliquer aux enquêteurs qu'il était bien au chalet, mais il a rien fait. Il était parti faire un petit pipi aux toilettes, et puis il a entendu pan 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 dans le chalet. Quand il est ressorti, tout le monde était mort, il y avait deux types plantés au milieu du salon, ils l'ont assommé, et quand David s'est réveillé, ben les types, qu'il ne connaît pas bien évidemment, lui ont ordonné d'aller brûler les corps de la famille Flactif. Et donc, ben, de peur d'être exécuté, il a été brûlé les corps de la famille Flactif, et c'est pour ça qu'il sait justement où sont les restes de la famille. Vous comprenez donc pourquoi je m'attarde pas là-dessus. Le procès du quatuor se tient du 12 juin au 30 juin 2006. Comme toujours, tout ce que je vous ai présenté dans cet HVF y est dit. Ce qui choque, c'est surtout que dans le box, David déverse toute sa haine malgré le massacre. Il a toujours la rage. Il dit
« Ce sont tous des chalets de merde. À chaque fois, il disait que les travaux allaient durer une semaine. Il avait promis de me louer son chalet, mais les travaux traînaient. Il nous a trimballés de chalet en chalet. Quand je rentrais du boulot, je trouvais ma femme en train de pleurer. J'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit « Il me le paiera et il me l'a payé. »
Il avoue également avoir volé dans le chalet des Flactif comme pour se faire rembourser. Il a pris des lunettes de soleil, des stylos, des transats, du parfum, un caméscope, des DVD, des portables, comme si, suite au massacre, tout lui appartenait désormais. Alexandra et le couple Aremza disent regretter de ne pas l'avoir arrêté, ils sont désolés, c'est tout. Alexandra, d'ailleurs, au moment du procès, a quitté David. Elle est de nouveau enceinte. Le verdict tombe rapidement à la fin du mois de juin 2006. David Otia est condamné à une peine de prison à vie, avec un minimum de 22 ans à faire avant de pouvoir faire appel. Le couple Aremza, quant à eux, écope de 15 ans de prison pour Stéphane et 7 ans pour sa compagne Isabelle. Alexandra, de son côté, prend 10 ans. Ayant déjà fait 3 ans de détention avant son procès, David pourra demander une libération conditionnelle dès septembre 2025. S'il vient à sortir, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter et Instagram. Le couple Aremza est aujourd'hui libre, Alexandra refait sa vie dans l'anonymat. Les restes des Flactif n'ont jamais été retrouvés, brûlés trop violemment, jetés dans la nature par la suite et certainement cassés. Leurs ossements sont aujourd'hui quelque part, certainement sous différents formes dans les grandes forêts du Grand Bornand. La seule chose qu'ont pu donner les experts scientifiques à leurs proches, ce sont 5 sachets de cendres. Mario, le seul survivant de la famille Flactif, désormais adulte, s'est exprimé récemment dans les médias, disant que s'il avait été là, il aurait pu protéger ses frères et sœurs. Normalement, il devait arriver dès le vendredi, jour du massacre, et non le samedi, mais son père a refusé qu'il loupe un jour de cours, lui sauvant certainement la vie. David Otia n'a jamais formulé de regrets quant à ses actes. Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, étant donné qu'il y a un survivant de la famille Flactif, Mario, qui est arrivé après le massacre, n'hésitez pas à lui mettre un petit message dans les commentaires si un jour il tombe sur cet HVF et qu'il va voir ce que vous dites justement sur cette affaire. C'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, le pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et puis, bye.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.